fait 3-4.
Ouais, mais comment est-ce que je sens?
Ok.
Avec les filles, je
Ok, vas-y.
3-4.
Avec...
non, mais franchement, non.
Avec les filles, je ne sais pas. Je ne
dis pas mieux.
C'est dit, ah, mais c'est parce que c'est ton idée, non?
C'est ça.
Par les temps qui courent. Marie Richeux.
Le jour de la sortie de votre premier album, La Symphonie des Éclairs, vous avez écrit Zao de Sagazan qu'on y trouverait 13 chansons écrites de vos 15 à vos 23 ans, que dedans vous y aviez mis votre corps et votre âme et que désormais vous vous sentiez complètement nu, mais joli et sincère surtout. Vous écriviez aussi « Espérer du plus profond de votre cœur qu'elles nous feraient du bien, ces chansons ». Et en vous lisant, on se souvient donc qu'on peut mettre tout un corps dans une chanson et que cette même chanson peut faire du bien aux autres. Sur la pochette de ce premier disque, vous apparaissiez silhouette stylisée devant des machines, peut-être à remonter le temps, peut-être à faire décoller un vaisseau, peut-être à se projeter dans l'avenir ou tout simplement fabriquer du son. Ce disque s'appelle « La Symphonie des éclairs » et il va vous emmener un petit peu partout en concert. Bonsoir Zao de Sagazan.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, on est ravis de vous recevoir ici. Puisque je parle de concert, on peut dire qu'il y aura le 18 avril le Trianon à Paris. C'est beau, mais c'est complet. Il y aura le 20 avril au Printemps de Bourges, le 24 juin au Festival Solidate, la première partie de Stromae tant que ça tient le 16 juin à la Défense Arena et l'Olympia le 4 novembre. Mais au milieu de tout ça, après ça, avant ça, plein de dates un petit peu partout. Est-ce que c'est agréable de jouer devant des gens ?
C'est très agréable. Moi, c'est pas agréable pour tout le monde. Je crois que ça plaît pas à tout le monde, mais moi, je prends beaucoup de plaisir à faire des concerts et toutes sortes de concerts devant plein de gens, devant très peu de gens, devant des gens contents, devant des gens méchants. J'aime bien le challenge aussi des gens qui n'aiment pas. Je prends beaucoup de plaisir. Je m'amuse énormément sur scène.
Comment ça de jouer devant des gens méchants? Comment vous le savez qu'ils sont méchants?
Bon, des gens en tout cas méchants.
Ils sont pas là pour vous?
C'est pas parce qu'ils sont pas là pour moi qu'ils sont méchants, mais j'ai eu des concerts où il y avait des gens pas très gentils qui ont pu faire des réflexions, etc. Mais même ça, ça me donne un boost et ça me donne envie encore plus de faire un bon concert pour leur mettre une claque.
Voilà. Il y a aussi jouer devant des gens de on sait pas qui, c'est-à-dire exactement. Jouer devant une caméra, être chez soi, dans sa chambre. On entendait au tout début de l'émission un tout petit bout de vidéo piqué dans les tonnes de vidéos postées sur les réseaux sociaux. C'est quoi cette projection, cette manière d'offrir comme ça sa voix, ses chansons à des gens qu'on n'a jamais vus, dont on ne sait pas ni le nombre, si parfois on sait le nombre, mais ni les visages?
Eh ben, c'est marrant parce que je me pose pas autant de questions. Je l'ai fait vraiment sans me poser de questions. Ça, à mes 15 ans, j'ai commencé à poster des vidéos. Et de base, c'était vraiment juste pour mes amis. J'avais 20 abonnés, 20 potes qui me disaient « Ah, c'est marrant, vas-y, continue ». Et puis petit à petit, les gens sont venus. Et je suis très heureuse de pas avoir pour l'instant perdu cette... naturel, ce naturel et cette... où je me pose... Je pense que si je me posais trop de questions, ça deviendrait plus très intéressant. Pour l'instant, juste je m'amuse. Il y a des fois où j'ai des jours de pause et dans ces cas-là, j'aime faire, je sais pas, une petite vidéo, un petit montage. J'ai toujours adoré les montages, j'ai toujours adoré. Mais je sais pas d'où ça me vient. Ça vient depuis mes 15 ans, en tout cas, d'aimer regarder une caméra et pas savoir qui y aura derrière. Mais je me pose même pas la question de qui sera derrière. Je crois que si je le faisais, je ferais plus ces vidéos.
Oui, c'est marrant. En regardant ça hier, j'en ai regardé beaucoup et je me disais, c'est comme s'il y avait aussi des nouvelles générosités qui s'inventaient aujourd'hui, des nouvelles générosités artistiques, des façons de proposer ce qu'on fait de manière assez immédiate, qui n'était pas possible il y a encore quelques années, quoi.
Ouais, carrément. Et je trouve ça génial parce que là, en plus, l'Instagram met un, il y a un côté de jeu, c'est beaucoup moins sérieux qu'un album. Bon, moi, j'ai pris beaucoup plus de temps à faire mon album que mes petites vidéos Instagram. Mais du coup, c'est un terrain de jeu où tu peux te permettre de faire tout style. Tu te poses pas de questions et ça fait du bien. Parce que généralement, on se pose beaucoup trop de questions quand on fait un disque. Et voilà, j'aime bien. Et puis très rapidement, tu comprends que les gens aussi aiment bien. Mmh. Et bon, bah, si je peux faire quelque chose que j'aime et faire plaisir aux autres, c'est parfait.
Et puis c'est un premier pas aussi dans la manière dont ce projet est né, peut-être on le racontera, mais puisque vous dites depuis deux fois qu'il y a cette date des 15 ans, et puis que le jour de la sortie vous avez bien dit qu'il y avait vraiment entre les 15 et les 23 ans, 8 ans, une petite douzaine de chansons. On a presque envie de dire, alors, laquelle était à 16, laquelle était à 17, laquelle
je
était à 19.
Je peux le dire.
C'est vrai, vous vous souvenez à peu près de tout ça?
Je saurais pas dire exactement les dates, mais en tout cas, je sais que la Symphonie des Éclairs, j'ai écrit il y a pas longtemps. C'est une des dernières. Je crois que la dernière que j'ai écrite, c'est vraiment Langage. Mais la première, c'est de manière très évidente, Les Garçons. Et je trouve qu'on le sent aussi dans l'écriture. Il y a un.
C'est vrai. C'est autre chose.
C'est autre chose. Et puis, il y a une certaine, légèreté de. Je suis pas sûre que j'aurais dit ça tout maintenant que j'aime tous les garçons, mais bien que je les aime beaucoup. Mais quand t'as 16 ans et que t'es au lycée, que la seule chose qui t'intéresse, c'est où est ton crush? Est-ce qu'il est dans le bâtiment C ou dans le bâtiment B?
Très important.
C'est très important.
À quelle récré il va passer?
Exactement. Et du coup, t'écris ce genre de choses peut-être un peu plus simple, un peu moins profonde, mais qui raconte quand même des choses intéressantes, je trouve.
Est-ce que ça en fait un objet plus singulier, justement, un premier disque qui embrasse comme ça beaucoup de temps de composition, beaucoup de temps d'écriture, et qui peut-être, dans un projet ultérieur, vous parlerez de vous, vous parlerez d'une expérience de vie un peu plus resserrée? Là, d'un seul coup, c'est 8 ans de vie aussi qui se trouve raconté dans le disque.
Complètement. Ouais, c'est ce que je me demande. J'ai hâte, mais j'ai pas hâte de me remettre à faire un autre album, parce que je suis très contente.
Tout doux.
Là, on passe à autre chose. Et je suis très contente de sortir du studio, etc. Mais j'ai hâte de voir comment est-ce que je vais faire ce prochain album, parce que là, il y a une, je doute que je vais prendre 8 ans, et puis ça se trouve, je vais prendre 8 ans et ça sera très bien, mais il y a une sorte de sincérité. Puis surtout, quand j'écrivais ces chansons-là, j'écrivais juste des chansons pour écrire des chansons. Mmh. Et là, je sais que le prochain, je vais plutôt me poser des questions dès le début, et il faut pas. Mais je pense qu'il y a une forme de sincérité totale dans ce premier disque, en tout cas, où je raconte juste mes petites histoires et là je suis au début où je commence à me dire putain, en fait il y a vraiment des gens qui les écoutent et sur le moment je me posais même pas la question, mais effectivement c'est ça qui fait moi j'aime beaucoup l'idée qu'il y a des chansons que j'ai pris 4 ans à écrire, d'autres de manière triste j'ai pris 30 minutes, mais ça dépend vraiment des chansons. Mais je doute pas que le deuxième sera bien, je ferai tout pour, en tout cas.
Mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. Tristesse, on écoute.
Qui va la tristesse, vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse. Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégoulinantes de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Qui va là? Qui va là? Qui va là? Ça c'est pas moi. Mais qui va là? Mais qui va là? Qui va là? Tristesse, dégage de là. Marionnettiste total.
Donc 30 minutes d'écriture pour ce morceau-là, Zao de Sagazan.
Oui, mais alors beaucoup plus de longueur dans la prod. On a, pour le coup, elle, on a vraiment galéré à trouver une bonne prod, etc. Mais l'écriture s'est faite assez rapidement, ouais. Je pense peut-être pas 30 minutes, disons une heure. Mais je me suis posé aucune question là où il y en a d'autres, telle la Symphonie des Éclairs en pleine dormante, où je me suis cassé le crâne pour les sortir.
Il y a quelque chose qui avance vraiment sur plein de, j'allais dire sur deux pieds, mais en fait sur beaucoup plus de pieds dans cette chanson-là, parce que vous entrez, c'est assez théâtral, il y a une voix qui pourrait être presque inquiétante, puis il y a le beat qui rentre et ça devient assez irrésistible de bouger, puis ensuite vous revenez un peu plus tard dans la chanson, vous allez parler. Il y a quelque chose comme ça qui est très ample dans le développement, qui est assez hétéroclite, comme si vous pouviez presque vous promener dans vos propres chansons, en fait.
Et ben, je pense qu'il y avait cette envie, en tout cas dans cette chanson qui parle, parce que là on a entendu forcément que la première où je dis que je suis marionnettiste, mais à la fin on comprend que je doute un peu de cette place-là et que je me demande si je suis même pas la marionnette.
Et si on n'est pas toutes et tous.
Exactement. Je pense qu'il y a ce qu'elle raconte cette chanson, c'est moi la découverte des émotions fortes que j'ai faites à 15 ans et je me suis dit attends mais j'ai toujours pensé que j'étais pas triste parce que j'avais déjà de la chance de pas avoir des grandes raisons d'être triste, mais surtout que je me pensais très hyper rationnelle, hyper positive, et donc de ce fait-là, la tristesse ne pouvait pas me toucher. Et en fait, je me suis pris en pleine gueule l'idée que si, et je pense qu'il y a toujours ce combat un peu qu'on a contre la tristesse. Il y a des moments où on va bien et on est en mode genre c'est bon là je vais bien et tout va bien, et puis tout d'un coup elle revient et t'es en mode non mais c'est pas possible. Et je pense que j'avais envie dans cette chanson de vraiment de ce va-et-vient de qui est dans les paroles, mais aussi dans la prod, où tout d'un coup on part et après en fait non, tu ne partiras pas et tu t'arrêtes et je t'autorise plus à bouger la tête et après ah vas-y en fait tu repars, parce que pour moi la prod c'est aussi tristesse quoi, c'est tristesse qui vient qui dit non je repars et puis là je reviens et puis je repars, kiffe et ben non maintenant kiffe plus. Enfin donc il y avait cette envie de montrer là aussi que bah pour le coup là moi je suis votre marionnettiste parce que je décide quand le kick est là et quand il repart. Mais en fait, c'est pas moi qui le suis, c'est tristesse en tout cas. Présente
tristesse au sens du morceau, vous voulez dire, ou au sens du sentiment?
Bah, les deux, en fait, c'est le sentiment tristesse vient de chercher et repart, et je voulais montrer ça dans cette prod-là, comme dans le texte, quoi.
Comme si vous étiez vous-même marionnettiste, quoi, de nos corps qui écoutons, de nos oreilles, de nos cœurs qui battent.
Ouais, mais du coup, c'est pas moi, c'est tristesse.
C'est le morceau, quoi.
Voilà, c'est le morceau.
C'est le morceau ou c'est l'émotion.
Exactement.
Dans un moment, il y a un moment très répétitif où vous dites je contrôle tout. Alors peut-être pour s'en persuader et puis t'y réaliser à la fin que peut-être pas. Est-ce qu'il y a dans la manière de faire de la musique, dans votre manière de faire de la musique, quelque chose qui contrôle ou en tout cas qui cherche ce contrôle-là?
Moi j'ai un gros problème avec ça, c'est j'ai un besoin de tout contrôler. Pas dans le sens d'avoir du pouvoir sur les choses, mais j'ai beaucoup de mal à, et j'apprends maintenant, mais à déléguer. J'ai besoin d'écrire les chansons, mais aussi de les produire, et aussi de faire les clips, et aussi de faire tout ça. Et ce qui va pas être possible au bout d'un moment. De toute façon, je le vois bien au niveau de la fatigue. Je vais sinon rester décédé sur un coin de table.
Ah, dommage.
Donc, ça serait dommage. Mais effectivement, j'ai besoin de contrôler. J'ai toujours eu ce besoin-là de contrôler les mots qui sortent de ma bouche, comme de contrôler les mélodies. Et en même temps, la musique, c'est un entre-deux. C'est en même temps un lâcher-prise et un contrôle. Il faut trouver le juste milieu. Car si j'étais juste dans le contrôle, au bout d'un moment, c'est chiant et je ne fais pas des maths, je fais de la musique, c'est différent. Mais voilà, j'aime contrôler, j'aime... Et par exemple, on parlait là, tout à l'heure de la scène. Ça, c'est un endroit où c'est bien, parce qu'en même temps, tu contrôles, mais tu contrôles rien du tout. Tu contrôles ni le public, ni comment ils vont recevoir, ni
ton corps.
Voilà, exactement. Et donc, il y a une obligation de lâcher prise qui me fait beaucoup de bien.
Est-ce qu'il y a aussi une part de contrôle, ou en tout cas, peut-être, il faut en parler autrement, de l'invention de soi, mais dans la théâtralité de votre voix, à certains moments des chansons, certaines fois, on a l'impression qu'il y a comme des personnages, des imaginaires qui arrivent, qui sont pas toujours là, qui seraient pas genre un personnage qui serait Zao de Sagazon de la scène, mais plutôt des fantômes qui vous visitent, quoi.
Complètement. Bah, en fait, je pense que j'ai surtout ce... En même temps, on peut parler de personnage. En même temps, j'ai l'impression que c'est toujours le même personnage, mais qui rentre dans différentes émotions.
Et c'est un peu. Mais c'en est un.
C'est forcément. La dernière fois, on me demandait est-ce que t'es dans un personnage sur scène. Ben en fait, je suis moi, ça c'est sûr. Mais quand j'ai écrit Tristesse, par exemple, j'étais dans un certain mood, là où j'étais pas dans le même mood quand j'ai écrit Les Garçons, ça se sent. Et en fait, pour bien interpréter cette chanson, je suis obligée de re-rentrer dans ce mood-là, et donc dans ce personnage, on peut dire ça, ou en tout cas dans cette émotion-là. Dans laquelle je ne suis plus, mais c'est mon métier, telle une actrice ou je ne sais pas, de retourner dans cette émotion si je veux faire quelque chose de sincère. Mais j'ai pas pour autant l'impression de mentir du tout. Mais c'est sûr que, en tout cas, j'aime quand j'écris des choses, c'est moi et en même temps je caricature un peu la chose. C'est pas vraiment caricaturer, mais plutôt que de dire je t'aime, je vais dire je t'aime passionnément. Enfin, tu vois, je n'ai jamais aimé passionnément, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais j'ai besoin toujours d'aller à l'extrême,
dans l'intensifier, exactement.
Et du coup, tous ces personnages là sont un peu intensifiés, mais pour moi c'est la même personne. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis très heureuse, j'ai des retours de gens qui me disent, bah en fait, t'as trouvé plein d'émotions différentes de moi que j'ai, moi, et tu les as toutes cherchées. Maintenant, je me ressens dans plein d'émotions, je ne sais même plus laquelle je suis au final. Mais en fait, c'est déjà, je suis très contente de ça, mais au final, ça m'étonne pas tant dans le sens où c'est exactement la même chose pour moi, c'est mes émotions de différents moments de ma vie et que je mets en... Pour moi, une chanson, c'est surtout un moment, quoi. Et un moment, c'est une émotion, c'est une pensée qui peut... Par exemple, quand je dis tristesse, je te déteste, en fait, bah, il y a plein de moments où je pense pas ça et qu'en fait, je l'aime beaucoup, cette tristesse. Mais il y a un moment où je l'ai pensé, donc je l'ai écrit comme ça.
Donc vous pouvez le chanter.
Voilà.
C'est un nom que vous citez souvent et c'est un nom auquel on pense, en effet, en vous écoutant. Saoud Zagazon, on va écouter Jacques Brel parler d'une chanson, justement.
Une chanson, c'est fait non pas pour être chantée, c'est fait pour être racontée aux gens. Et si tout mon corps n'aide pas ce texte, c'est pas une chanson. C'est un petit truc écrit, plus ou moins habile, plus ou moins adroit, plus ou moins raté, avec une petite musique. Vous comprenez, si par malheur un jour on lit Rimbaud et on écoute Debussy ou Ravel, on ne peut plus sérieusement croire qu'une chanson est quelque chose de joli. Il faut qu'au-dessus de cette chanson se mêle un corps, une chair, enfin, et qui doit éclater pratiquement jusqu'à tomber. Enfin, si l'acte d'amour n'est pas suivi d'un énorme épuisement, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Et un tour de chant, s'il n'est pas suivi d'un énorme épuisement, c'est peut-être qu'on fait admirablement un métier, mais c'est sûrement qu'on ne les aime pas.
La voix de Jacques Brel, le 16 juillet 1967, une chanson qui a besoin du corps pour exister complètement et qui se raconte puisqu'elle ne se chante. Vous en pensez quoi, Saoud Zagazon ?
Bah moi, je trouve que c'est plutôt un mec intelligent.
Mais on n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec Jacques Brel.
Non, bah bien évidemment, il y a plein de fois où je suis pas d'accord avec lui et c'est pas grave. Hein, c'est j'aime le personnage en entier et puis bon, des fois il fait des trucs pas bien et puis c'est pas voilà. Mais moi, ce que j'aime beaucoup chez Brel, c'est sa générosité. Je trouve que c'est toujours ça qui m'a énormément plu chez lui. C'est le, il se donne à 100% à chaque fois et c'est ça qui m'a complètement à 15 ans fait halluciner, c'est que j'ai pas vu quelqu'un chanter une chanson, j'ai vu quelqu'un la raconter et la vivre, et c'est là où j'ai pris conscience que de ça, que en fait une chanson c'est pas juste pour être écoutée, en tout cas être entendue, mais c'est fait pour être vraiment écoutée. Il y a quelque chose à dire derrière, et moi je respecte énormément Brel pour ça. Il y a plein d'autres artistes. Moi ce que j'aime dans l'artiste, c'est la générosité. Je crois que c'est pour ça le public est généreux et on se doit nous aussi de l'être. Et je pense pas être capable de faire aussi bien que Brel dans ce don de soi, mais moi c'est ce que j'essaye de faire en tout cas en concert le plus possible. C'est il y a des gens à qui ça va très bien. Par exemple, je pense à Kraftwerk que j'adore et que un groupe extraordinaire que j'ai vu en concert. Bon, bah eux ils sont pas dans la générosité du corps, ça c'est sûr, c'est autre part. Mais par contre ils sont tellement généreux en son et le son est tellement extraordinaire que voilà, chacun sa manière de se donner. Mais Brel a une capacité à se donner, à donner de sa sueur, et ça c'est très impressionnant. Et moi ça m'a beaucoup inspiré, ça c'est sûr.
Ouais, il parle du corps, et c'est quelque chose que vous écriviez. J'ai repris ces mots, ces quelques mots que vous avez adressés le jour de la sortie de votre disque, en disant j'ai mis mon corps, j'ai mis mon âme. Ça pourrait paraître des mots comme ça banals qui seraient dits et redits, mais j'ai l'impression que c'est très sincère. Il y a quelque chose de la physicalité dans votre musique, dans la manière. Pas seulement sur scène, mais aussi dans le disque, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de mettre son corps dans une chanson ?
Moi, je pense que c'est surtout que j'ai l'impression que ça fait peut-être pas, je veux dire, vraiment 4 ans que je suis dans une obsession totale. Je ne pense que la musique. Je ne fais que penser à la musique. Je pense à mes amis, évidemment. Je ne suis pas non plus une personne horrible qui ne pense qu'à elle et à son art. Mais en tout cas, j'ai une obsession qui est sûre et qui est et je pense que c'est ça, de donner de son corps et de son âme. C'est que je me suis devenue folle, hein, en studio où il y a certaines personnes, et c'est pas grave du tout, des artistes qui font une petite chanson, hop, la pause, et puis mettent une petite instru, ça marche, un rime, ça marche, etc. Moi j'ai quand même une tendance à mettre tout mon esprit dans une chanson et puis à me faire chier un peu. mais oui, je pense que c'est ça que je veux dire dans le, j'ai tout donné, quoi. J'ai tout essayé, j'ai mis toute mon énergie, j'ai pas dormi, j'ai fait tout ça, et c'est là-dedans que je veux dire que j'ai mis mon corps et mon âme et que, en tout cas, cette petite Zao que je revois à 15 ans qui s'est dit que je veux faire des chansons, je l'achetais très généreuse. Et je suis, rien que ça pour ça, on m'avait demandé un jour, est-ce que t'es fière de cet album, etc. Je disais, je sais pas si je suis fière de cet album, mais je suis fière de comment je l'ai fait. Et je suis fière parce que j'ai tout donné, quoi. Et ça, déjà, on aura beau me critiquer, je sais que j'ai, je crois que la générosité, c'est ce qu'il y a des qualités que je préfère dans les humains et je me sais généreuse sur cet album, donc c'est déjà très bien.
C'est aussi un album où vous êtes rêveuse, en tout cas vous dites l'être, il est beaucoup question d'imagination, surtout ou quand il est question d'amour, c'est beaucoup de la rêverie, de la projection. Et à ce propos, je voudrais qu'on écoute la voix de Juliette Armanet.
C'est ambigu parce que je crois que c'était Gainsbourg qui disait ça, tout ce qu'il faut souffrir pour écrire 3 lignes, pour écrire 2 minutes 30 de chansons. Il y a un peu de vrai, je pense que il y a forcément un endroit de soi-même qui doit être un peu dévasté, brûlé pour pouvoir chanter les choses avec le cœur. Après, il y a une part de fiction qui est très importante et qui pour moi est aussi un territoire de liberté extrême, c'est-à-dire que comme n'importe quel acteur, on n'est pas obligé d'être flic pour jouer un flic. On n'est pas obligé d'être caissier pour jouer un caissier. Il y a une part d'invention de soi-même qui est fondamentale et qui est tout aussi belle que la vérité par laquelle on est passé. On n'est pas obligé d'avoir le tampon labellisé, vraiment vécu pour pouvoir parler de quelque chose. Parce que parfois, nos fictions sont aussi fortes, aussi puissantes, aussi métamorphosantes, je ne sais pas si ce mot existe, que nos vérités. C'est ambigu comme question. Je crois qu'il y a un peu de... Il faut oser la fiction autant que la vérité. Je pense que c'est important.
Vous écoutez France Culture, Par les temps qui courent, ce soir avec...
Zao de Sagazan.
Je crois que je tombe amoureuse d'un inconnu. Est-ce possible, mon père? Est-ce que vous en avez déjà vu des gens qui tombent amoureux d'autres inconnus? Ah, est-ce possible dans la cour des grands? Mais ce gars-là ne m'est pas si inconnu que ça, non, non. De mon côté, j'en ai rêvé des millions de fois. Alors certes, je le connais seulement à ma façon. Mais façonner des garçons, c'est mon truc à moi. Ah. Amoureuse d'un inconnu, impossible, mon père, de l'oublier. Depuis que je l'ai vu, j'en ai honte, en manque d'amour ou détraqué. Ah. Putain, je suis détraqué, mais ce gars-là ne m'est pas si inconnu que ça, non, non. De mon côté, j'en ai rêvé seulement 8 fois. Alors certes, je le connais seulement à ma façon, mais façonné des garçons, c'est mon truc à moi. Ah. Mon truc à moi. Ah. Mon truc à moi. Mon truc à moi. Mon truc à moi. Je suis amoureuse de l'inconnu, l'imagination qu'on croise au coin de la rue, de l'histoire que je m'invente. Je le contrôle en continu. En continu. En continu. En
un nouvel extrait de votre album Zao de Sagazan. Il s'appelle La Symphonie des Éclairs et cet extrait-là s'appelle Mon Inconnu. Juste avant, on entendait la voix de la musicienne Juliette Armanet parler de l'invention de soi, de la fiction, de la manière de, comme ça, créer des personnages et des situations dans les chansons et que c'est aussi presque important que de, entre guillemets, dire la vérité. Elle était au micro de Mathilde Wagman. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de la possibilité de s'inventer soi-même dans les chansons?
Moi, je pense que c'est hyper important, tout simplement parce que, à part pour certaines personnes, on n'a pas une vie assez intéressante pour faire 8 albums sur notre vie. Moi, en tout cas, même juste un album, je parlais que de moi, ça, j'en suis sûre que ça aurait été chiant. Ce qui est sûr, c'est que moi, dans, je pense qu'on est, et c'est notre métier, on se doit de pouvoir parler. Il y a des gens qui disent on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Évidemment, on ne peut pas parler de, quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas parler de ça, mais on n'a pas besoin de vivre quelque chose pour en parler. Il suffit de l'observer, de s'y intéresser, ça c'est sûr. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Mais il y a plein de choses qu'on doit observer. L'observation, en fait, c'est un pouvoir quand même énorme. Et,
vous le faites beaucoup ?
J'observe beaucoup, évidemment. Moi, j'ai toujours aimé... je pense que j'observe et je pose aussi beaucoup de questions. Quand j'écris, il y a plein de sujets dans l'album. Typiquement, l'amour revient beaucoup. Je ne connais rien dans l'amour. Je n'ai jamais vécu l'amour romantique, en tout cas. Ça ne m'empêche pas de parler d'amour. Ça ne m'empêche pas de parler... J'ai jamais vécu des violences et j'ai beaucoup de chance pour ça. Ça ne m'empêche pas d'en parler aussi. Mais par contre... je m'y suis beaucoup intéressée, j'ai posé beaucoup de questions, etc. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse le plus. J'ai beaucoup aimé écrire la Symphonie des Éclairs, qui raconte exactement mon histoire, mais je pense que c'est pas parce qu'on imagine qu'on ne parle pas de la réalité. Mmh. Là où elle et j'adore Juliette, d'ailleurs, je lui fais un bisou, mais elle parlait de... c'est pas parce qu'on ne dit pas la vérité que ce n'est pas réel. Parler, je dis je t'aime passionnément, donc je dis je parle de je. Ce n'est pas la réalité, enfin c'est pas la vérité, effectivement c'est pas moi, mais ça parle quand même d'une réalité, d'une émotion, que des gens peuvent comprendre et ressentir. Mais moi je joue beaucoup avec le rêve, je rêve énormément, j'adore
rêver. Dans la vraie
rêver.
Vie pour le coup ?
Dans la vraie vie, oui, je rêve quand je dors, mais je rêve beaucoup éveillée. Et je ne me mets aucune limite au rêve. Je sais qu'il y a, j'en parlais avec ma meilleure amie Camille, qui elle s'interdit de rêver parce qu'elle a peur d'être déçue. Elle m'a toujours dit j'ai peur d'être déçue, donc je ne peux pas, quand j'ai par exemple un crush, exemple, je ne peux pas rêver que je sors avec lui parce que j'aurais peur de ne pas sortir avec lui et d'être déçue. Et je lui dis mais c'est pas grave. Moi à l'inverse, je trouve que rêver ça permet. On ne rêve pas par espoir que ça va venir réel, on rêve pour devenir réel. Moi quand je rêve. Dans mon lit, que mon crush, que je suis avec mon crush, et j'ai aucun problème à le dire, je peux rêver, mais très loin, et ben ça me permet de le vivre un petit peu quand même. Mmh. Et d'ailleurs, je crois que je rêve tellement que j'ai même plus besoin de la réalité des fois.
Bah dans ce morceau-là, vous dites je suis amoureuse de l'histoire que je m'invente. Il y a Exactement. Aussi la possibilité d'être projetée tellement fort dans une rêverie, dans un fantasme, dans une imagination que ça existe au final.
Complètement, exactement. Et je trouve que c'est un pouvoir, le rêve, qu'on utilise beaucoup enfant et qu'après on s'interdit d'utiliser quand on devient grand. Et c'est complètement bête.
Parce et ça, que c'est lié à vous, à la manière dont vous êtes dans la vie, ou c'est lié au fait d'être projeté dans la création artistique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aussi, en créant, en écrivant, en fabriquant des images, en filmant, etc., vous donne une propension à rêver?
Je pense qu'effectivement, si j'étais, quand j'ai été auxiliaire de vie pendant un an, eh ben, c'est pas là où j'ai le plus rêvé, ça c'est sûr. J'ai fait plein de choses géniales, je regrette absolument pas ce moment-là, mais je pense que la création, elle est quand même très proche de l'enfance. On demande donc forcément, ça nous ramène à l'invention. De toute façon, on a un métier qui est là pour créer. Bah, créer, c'est inventer, c'est imaginer, c'est rêver. Donc, évidemment, je pense que j'ai un métier qui permet beaucoup. Et en plus, c'est un métier. C'est toute carrière est différente. Donc, on s'imagine aussi déjà notre futur. On ne sait pas de quoi il est fait du tout. Bien que personne ne sait de quoi il fait son futur, mais je pense qu'on a beaucoup de chance pour ça en tant qu'artiste, c'est que il est bon de rêver en tant qu'artiste, là où des fois on empêche les autres de rêver parce que c'est pas normal, et puis fais ton truc, t'as des choses à faire. Nous c'est notre métier, on est payé pour ça, donc
c'est votre matière première, quoi.
Exactement. En tout cas, moi j'aime beaucoup rêver, et en plus je rêve beaucoup même la nuit. J'ai vécu des histoires d'amour que la nuit, et c'est d'ailleurs des gens que... Certaines personnes ne comprennent pas ça, mais j'ai vécu une histoire d'amour pendant une semaine très intense.
Oh, de rêve en rêve.
Et oui, j'y retournais. Pendant une semaine de ma vie, j'aurais voulu rester endormie toute ma vie. Mais bon, heureusement, la réalité est revenue, et c'est très bien la réalité aussi.
C'est-à-dire que le contrôle dont il est question dans plusieurs de vos chansons, Zao Tsakazan, ce serait aussi carrément jusqu'à votre inconscient et votre vie rêvée de la nuit. Je décide que j'y retourne mercredi soir.
Exactement.
Cool, super.
Voilà, elle m'a fait un peu
bon
bizarre.
Bon pouvoir.
Bah, en tout cas, ça
bon
c'était...
Pouvoir.
Ça m'est arrivé qu'une fois, mais j'ai. Puis c'était très impressionnant parce que je me réveillais, j'étais amoureuse, quoi. Je ne pensais qu'à lui toute la journée, mais il n'existait pas. Quel enfer. Mais je trouvais ça super. Je trouve que l'inconscient, le cerveau humain, de toute façon, est passionnant et des fois nous fait des surprises.
On va continuer de parler de écriture, composition musicale, réalisation avec une autre voix, un autre nom que vous citez comme dans votre constellation, c'est Maurice Fanon.
J'étais malheureux, je pleurais, j'étais sur mon piano, je disais des mots, jouais de la musique, et au matin, vers 7h, 8h du matin, on a frappé à ma porte, et j'ai un copain d'ailleurs qui était libraire, disquaire, qui s'appelle Broskevitch, qu'on appelle Jonas, et qui était là, qui m'a dit, ça fait une heure que je suis là, il m'a dit, rejoue ce que tu viens de jouer. Donc j'ai repris mon piano, j'ai rejoué ce que j'ai joué, qui est simple. Dans l'écharpe, il y a 4 notes, 5 notes, c'est tout. Je l'ai rejoué, il me dit, t'es sûr, tu t'en souviens bien, note-les tout de suite, parce que moi, par contre, j'ai écrit les mots. Il avait écrit, si je peux, ce souvenir de soi, ce soupir, enfin, pas, c'était un peu mélangé, mais c'était, tout était là.
Si je porte à mon cou, en souvenir de toi, ce souvenir de soi, qui se souvient de nous, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux, c'est qu'encore une fois.
Bah déjà merci, parce que moi je connaissais pas cette chanson.
Et bah je suis ravie de faire découvrir cette chanson. Moi c'est Guillaume, un ami à moi qui me l'a fait découvrir, c'est son grand-père qui l'aimait beaucoup, cette chanson, et je la trouve absolument fabuleuse, extrêmement bien écrite.
Elle s'appelle L'écharpe, elle est donc signée Maurice Fanon, c'est une archive de 1990, il raconte comment il l'a écrite, donc en deux temps, avec un copain derrière la porte et lui tout seul, tout triste, au piano, avec un bout de soie et un bout de, ouais, de carré de soie, qui donne lieu à un très joli jeu de mots. Comment ça se passe pour vous? Vous disiez une demi-heure pour la tristesse et puis 4 ans pour d'autres, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment est-ce que vous travaillez?
Moi je travaille au piano toujours. Il y a des chansons, chaque chanson a son histoire, hein, évidemment, mm-hmm. mais moi, c'est toujours la même chose. C'est toujours au piano. Je pars du principe que la chanson doit suffire au piano-voix avant d'être
toujours
habillée. Généralement, il y a certaines chansons où vraiment l'intérêt, c'est la prod. Et je pense à Danser, qui n'est pas dans l'album, mais qui est une chanson qu'on fait en concert. Bon, bah là, clairement, je l'ai pas. De toute façon, le texte n'est pas très... c'est vraiment juste la prod qui fait danser, etc. Mais généralement, en tout cas, toutes mes chansons, je les écris piano-voix. Et je ne sais pas faire autrement. Il y a juste la Symphonie des éclairs que j'ai écrit dans l'avion, parce que j'ai vu cette image. En tout cas, j'ai juste écrit le refrain.
Qui est ?
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais tous les nuages, comme le fait la lumière, en écoutant sous la pluie la Symphonie des éclairs. Je crois que j'ai écrit les 2 premières phrases. En tout cas, j'ai fait ce constat-là. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Dans l'avion, je me suis dit, mais effectivement, il fait toujours beau au-dessus des nuages.
Ouais.
Et après, nous sommes allés dans les nuages. Et je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus beau, les nuages. Il y avait un super tableau avec la lumière qui traversait, etc. Et je me suis dit, moi, si j'étais un oiseau, j'irais là-bas, plutôt qu'en haut. Mais après, j'ai pris énormément de temps à écrire cette chanson. C'était une équation impossible à résoudre, mais j'ai réussi et j'en suis ravie. Mais tout dépend des chansons. Il y a vraiment des chansons, mais c'est toujours la même chose. J'ai toujours ce rapport de la boucle. Moi, je travaille beaucoup en boucle. Je trouve des accords je balance des mots, etc. Et en fait, je suis vraiment du genre à faire, il fait toujours beau. Il fait toujours, et en fait je fais ça pendant 2 heures et puis tout d'un coup me vient une phrase, il fait toujours au-dessus des nuages, ok, et puis je continue
et... sans vous épuiser.
Ah non, mais je rentre dans un état un peu de dormance, et en même temps j'ai l'impression de moi-même je suis ma propre sorcière je rentre dans un état très bizarre et très agréable, où je pourrais rester des heures là où, franchement, écouter une prod en boucle et me dire est-ce que c'est le bon son, ça me rend folle, et c'est pas très 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 peu agréable. Parce que des doutes sont... Tous les doutes arrivent, etc. Mais en, quand j'écris une chanson au piano-voix, je pourrais passer 2 heures sur une même phrase, ça ne pose aucun problème. Ça pose plus de problèmes à ma coloc, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu redondant au bout d'une heure. Mais moi, je peux vraiment passer 8 heures sur une même phrase, ça ne me pose aucun problème. Je m'y sens très bien.
Donc ça veut dire que vous vous sentez un peu moins bien en studio? Tout le temps plus collectif? Peut-être on peut parler de ce travail avec les deux amis, Alexis Delongue et Pierre Cheguillaume, la manière dont vous avez partagé comme ça la création à un certain moment de la fabrication du disque, c'est un moment moins agréable pour vous?
J'aurais du mal à dire ça parce que c'est des personnes que j'adore et on a passé des super moments en studio. Mais par contre, franchement, j'ai passé 3 ans et demi extraordinaires à leur côté et je continue en plus à le faire ce qu'ils sont avec moi en live. Mais je pense que par contre, c'est un endroit où j'ai beaucoup plus de doutes. Et entre autres, sûrement parce que j'ai un rapport à mes chansons un peu spécial où je les prends un peu comme mes bébés et généralement elles sont finies quand on arrive au studio et je suis souvent à la recherche d'une vérité, c'est bizarre
de
mais
son.
Ben, une vérité, même quand j'écris des paroles, je cherche, etc., je trouve une rime, je me dis c'est pas ça, une deuxième, une troisième, j'ai un petit côté un peu exigeant et j'attends la vérité et des fois je tombe sur cette vérité, là je me dis ok, c'est ce mot exactement, c'était ça que je trouvais, je trouvais pas mais j'ai trouvé, c'est bon. Et souvent, j'ai fini une chanson quand je me dis c'est la vérité. Et Les Dormantes, j'ai pris 5 ans à être sûre vraiment que c'était ce mot-là et pas un autre. Et du coup, en studio, je recherche cette même chose-là. Mais les mecs, en fait, n'ont pas la même vérité que moi, etc. Et c'est compliqué. Et donc, j'ai très souvent l'impression qu'on n'habille pas comme il faut mon enfant, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a du mensonge, etc. Donc, très vite, les doutes, je suis quelqu'un qui doute énormément. Et c'est très fatigant au bout d'un moment. En plus, déjà, c'est fatigant d'écouter de la musique très fort pendant longtemps. Juste physiquement, c'est fatigant. Mais en plus, quand tu doutes énormément, et en même temps, j'ai ce truc-là où je vois que mes deux amis chéris sont en mode « Merde, elle aime pas !» Et eux-mêmes sont mal. Et après, je me dis « Oh merde, mais ils sont mal !» Non, mais c'est bien. Mais en fait, bon bref. Et donc, je rentre dans un doute humain, artistique, etc., qui est terrible. Donc, j'ai vécu des moments voilà de grandes réflexions, mais j'ai la chance de faire ça avec des humains extraordinaires et donc je ne pourrais pas dire que c'était un mauvais moment. Mais j'étais très contente quand on avait terminé, c'est tout.
Des humains et des machines en studio, et puis vous avez cité le nom de ce groupe, Kraftwerk, c'est vrai qu'on y pense en écoutant votre disque, Zao de Sagazon. On va écouter Ralph Hütter parler des machines dans une archive de 2020.
Nous, on joue les machines jouent nous. C'est vraiment l'échange et l'amitié que nous avons avec les machines musicales qui font nous construire une nouvelle musique. Ça représente une réalité virtuelle parce que même si nous jouons par exemple le morceau Autobahn, il n'y a pas de voiture sur scène, mais tout le monde peut très bien deviner et même voir les carrosseries par le son. Par exemple, c'est le son Volkswagen par exemple. L'art visuel, maintenant, on découvre des nouvelles réalités grâce au computer, etc., et est en train de suivre dans la voie musicale. Mais je crois que la musique est toujours en avance. Qu'est-ce que c'est? C'est des ondes, on ne peut même pas les voir. Mais tout le monde crée des images dans la tête.
Des images dans la tête, l'imaginaire, des machines qui nous jouent autant qu'on en joue. On termine l'émission avec Ralph Hütter de Kraftwerk et son rapport aux machines. Finalement, ça nous renvoie peut-être aux marionnettistes et aux marionnettes du début de l'entretien, Zao de Sagazon. Peut-être nous dire un mot de votre rapport à ça. On vous voit. On voit une personne sur la pochette de votre disque vraiment en prise avec des machines. Donc il y a quelque chose comme ça qui est vraiment très présent dans le disque là. Pour raconter quoi, pour dire quoi de votre rapport à ça?
Moi, il y a plein de raisons de cette pourquoi est-ce que j'ai fait cette pochette. Déjà, je crois que j'aimais beaucoup l'idée de qu'on voit une femme devant des modulaires, parce qu'on voit rarement ça, et pourtant, il y en a eu beaucoup. Et puis, tout simplement, parce que les modulaires ont fait beaucoup partie de notre la création. Et ce que j'aime dans les modulaires, entre autres, il y a cette... là où, quand je suis sur un piano, c'est moi qui décide des notes, mais j'aime... Bien que j'aime le contrôle, je crois énormément à l'erreur enfin, l'erreur est hyper importante dans la musique et c'est des choses qu'on y, j'avais vu un texte qui disait que ce qui différencie l'artisan et l'artiste, c'est qu'on ne peut pas imaginer. Quand on est artisan, on peut imaginer une pièce avant de la faire. Artiste, on peut pas imaginer une chanson avant, une mélodie avant de la sortir de nous. Et dans les modulaires, il y a énormément ça parce que on ne prévoit absolument pas ce que va faire le modulaire. On rentre un truc et puis on regarde ce que ça fait. Et du coup, il y a, je comprends quand on peut personnifier son modulaire. C'est une nouvelle personne, c'est un nouvel humain qui arrive dans la pièce et qui nous dit on va faire ça. Et en fait, c'est pas un humain, c'est une machine. Et ça a été très important dans la création de ce disque, très important dans le live aussi parce qu'on a rajouté les modulaires maintenant et c'est ça qui rajoute aussi une notion de complètement d'improvisation qu'on n'avait pas avant. Et puis j'aimais aussi parce que en fait derrière la pochette on me voit avec aussi mes copains et je ne suis pas seule sur cette pochette et c'était important pour moi qu'on voit mes amis parce que pour moi la Symphonie des Éclairs ce n'était pas uniquement Zao de Sagazin mais c'était aussi Pierre Chéguillaume, Alexis Delon et Tom Léfray.
Et puis en plus on se rend compte que les petits boutons lumineux qu'on a aussi là en studio et qui sont sur les potards etc ressemblent de très très près à des étoiles.
Exactement, et c'était ça l'image que je voulais en faire, c'était l'idée, déjà effectivement il y a cette ce côté comme tu disais vaisseau spatial où j'avais l'impression un peu de nous on prépare un décollage depuis 3 ans et demi et puis il y a aussi cette notion de on touche des boutons lumineux et ces boutons deviennent des étoiles et forment un univers et je trouvais ça poétique de dire que j'étais en train de former un univers avec mes copains. Voilà.
La classe. Merci beaucoup, Zao de Sagazin. Eh bien, ce disque s'appelle La Symphonie des Éclairs. Vous allez vous promener en concert. On mettra toutes les dates sur la page de Parler Temps qui court. Plein de bonnes choses.
Merci beaucoup.
Et on se quitte avec un dernier extrait de votre disque.
Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs.
Au son ce soir, c'était Étienne Aurouche à la réalisation, Louise André. Un grand merci à toute l'équipe de Parler Temps qui court, Mathilde Wagman, Jeanne Aléos, Camille Petiot et Marianne Chassor. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Parler Temps qui court. Pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Camille. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.
Quand la tempête a su que des mélodies et s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit nulle raison d'envie le soleil. Je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs.
au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.